Studio Tamani, voici nos informations en français.
Dépistage massif dans les lieux publics, le port obligatoire du masque, le respect de la distanciation physique, ce sont entre autres mesures prises par le Conseil supérieur de la défense tenu ce mardi à Koulba contre la propagation du coronavirus. Le Conseil national de la transition n'est toujours pas mis en place. Préoccupé, la Commission électorale nationale indépendante et des organisations de la société civile estiment que ce retard pourrait avoir un impact sur l'organisation des élections prochaines. Arrêt de travail à l'hôpital du Mali suite à l'agression d'un agent. Les malades et leurs accompagnateurs dénoncent cette situation. Les responsables de la structure, conscients des conséquences de cet arrêt de travail, exigent une sécurité pour le personnel. Voilà pour le sommaire de cette édition qui vous sera présentée par Imran Akil Omega à la mise en onde de Mamadi Keita. Bonjour à toutes et à tous. Le Conseil supérieur de la Défense nationale se réunit ce mardi 1er décembre sur la situation de la COVID-19 au Mali. Ces mesures ont été prises au cours de cette rencontre présidée par le chef de l'État Bandao. Ces dispositions interviennent au lendemain du discours à la nation avorté du président de la transition. Le détail avec Mohamed Ali Agaleida.
Ces mesures visent, selon le Conseil supérieur de la Défense nationale, CSDN, à rompre la chaîne de transmission de la pandémie à coronavirus. Il s'agit notamment du renforcement de la surveillance épidémiologique par le dépistage massif dans les lieux publics, écoles, mosquées, églises, dans les gares routières, au marché et les lieux de spectacle et sport. Dans les espaces publics et les lieux de regroupement, le port des masques sera désormais obligatoire et la distanciation physique, décide le Conseil supérieur de la Défense nationale. À ces dispositions s'ajoute l'encouragement de la rotation des équipes de travail des services, du télétravail ainsi que des cours en ligne. Des tests rapides seront prévus pour les voyageurs entrant au Mali sans certificat de PCR COVID-19 au niveau des frontières terrestres, précise le communiqué. Le document ajoute ainsi que la communication et la mobilisation sociale face à la seconde vague de COVID-19 seront renforcées à travers la sensibilisation. Il a été également décidé d'améliorer la qualité de la prise en charge des cas de COVID-19. Pour cela, un renforcement en capacité des ressources humaines, la disponibilité des médicaments, d'oxygène, d'équipements de prise en charge, des cas et de comorbidités est prévue. Le Conseil supérieur de la Défense précise également que ces mesures feront l'objet d'une évaluation périodique pour permettre leur adaptation à l'évolution de la situation.
Et réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Le Conseil national de la transition n'est toujours pas mis en place par les autorités de la transition. Rien n'a aussi filtré à ce stade sur l'organisation des futures élections. La Commission électorale nationale indépendante et des organisations de la société civile se disent inquiètes, notamment de la suspension de la liste, de la révision des listes électorales. Le Grand Dialogue de Studio Tamani s'est intéressé sur la question lundi dernier. Un résumé des réactions des invités avec Ali Cissé.
Aucune nouvelle disposition n'a été prise par rapport à l'organisation des élections depuis la mise en place des nouvelles autorités. C'est ce qu'indique Amara Traoré, membre de la Commission électorale nationale indépendante, CENI.
Depuis la mise en place des nouvelles autorités, il n'y a aucune nouvelle disposition qui a été prise. On était à la phase de révision des listes électorales qui a été interrompue par la grève de l'administration. Pour le moment, rien n'est décidé, rien n'est mis en place concernant les élections.
Cette situation n'est pas normale, d'autant plus qu'il y aura 7 élections organisées à la fin de la transition, déclare Dr Ibrahim Sango, président de l'Observatoire citoyen des élections.
Ce n'est pas normal du tout. On s'attend à la fin de la transition à 7 élections. Le référendum, ça c'est une première élection, parce qu'il faut relire la constitution d'emblée. Il y a l'élection présidentielle, les élections législatives, les élections communales, il y a les élections de conseils de cercle, les élections de conseils régionaux et puis probablement les élections sénatoriales. Donc il y a 7 grandes élections qui nous attendent à la fin de la transition. Mais le départ, c'est qu'il faut la mise en place du Conseil national de transition, le CNT, qui va servir d'organe législatif et relire les textes.
L'Observatoire citoyen des élections estime que le ministère de l'administration territoriale ne doit plus s'occuper de l'organisation des élections. Ses responsables demandent la mise en place d'un organe indépendant. Rappelons que la révision des listes électorales reste suspendue à cause de la grève illimitée des administrateurs civils.
Au même moment, le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation a annoncé le lancement d'une opération spéciale d'enrôlement et de retrait des fiches individuelles du 1er au 31 décembre 2020 à Bamako. Selon des observateurs, les autorités de la transition doivent préciser pour quelles élections ces opérations spéciales sont destinées. Boubacar Boukoum est analyste politologue. Il est joint au téléphone par Mamadou Samasekou.
C'est vrai que l'élection ne va pas se résumer à Bamako, mais cette approche, elle est comprise dès lors qu'on sait qu'en termes de collectivité. Bon, peut-être que les autorités estiment qu'il faut tenter d'abord la première opération à Bamako, ensuite l'étendre aux autres régions. Mais dans tous les cas de figure aujourd'hui, les élections s'avèrent être hypothétiques parce que nous n'avons pas la vision de l'architecture institutionnelle qui va nous permettre d'aller à des élections. Il s'agit de quel genre d'élections ? Les présidentielles, les régionales, les communales ? Il s'agit de quoi en fait ? Parce que à la date d'aujourd'hui, la configuration que nous avons, le modèle que nous donne Kidal, c'est que nous sommes plus ou moins dans du fédéralisme, mais qui n'est pas encore uniformisé. Est-ce que ça veut dire que les autorités ont décidé de donner l'indépendance à Kidal et de faire des élections à Kidal pour Kidal seulement ? Ou est-ce qu'il s'agit d'un système harmonisé qui tienne en compte l'ensemble des régions du Mali ?
3 civils auraient été tués, 8 autres blessés ce lundi lors de l'attaque du village de Bourouré dans le cercle de Tomini en région de Ségou. Des sources locales, l'attaque a été menée par des hommes armés non identifiés. Les mêmes sources rapportent que 4 assaillants auraient également été tués et plusieurs autres blessés. Des greniers et des animaux seraient aussi brûlés, indiquent des témoignages. L'insécurité à Bamako prend une dimension inquiétante ce dernier temps. Cette insécurité est caractérisée par des assassinats, des vols à main armée, entre autres. Face à cette situation, des observateurs estiment que les parents ainsi que l'État ont un rôle prépondérant dans la lutte contre le phénomène. Docteur Akaoulé Togola, sociologue, est joint au téléphone par Khalifa Goïta.
L'insécurité à Bamako peut s'expliquer par le goût du bien facile. Il y a un contexte général d'insécurité au Sahel et au Mali. Ça rend possible, n'est-ce pas, l'accès des armes à feu aux appels de l'insécurité, notamment le chômage des jeunes, l'addiction. Il y a aussi la prolifération des jeux de hasard. Il revient à la famille et d'assurer la formation et la conduite morale de l'enfant. Mais il faut que ce discours contribue à réveiller des valeurs. Bon, l'État faillit dans plusieurs des cas. La police, la gendarmerie, c'est des systèmes classiques. Et moi, je pense qu'il faut même aller au-delà de ces systèmes classiques de sécurité et de surveillance là. De même que les citoyens sont parfois instruits des mesures de sécurisme, pour ça il faut former aussi des citoyens à pouvoir intervenir de quelque manière que ce soit, et lorsqu'ils sont témoignés effectivement d'une situation de braquage, comment faire concrètement?
4 bandits armés ont braqué ce mardi matin une banque de la place dans le quartier Atetebougou à Bamako. De sources, selon des témoignages, les bandits tous coagulés ont emporté tout l'argent de la caisse. Les mêmes sources indiquent qu'il y aurait eu un blessé. Rappelons que lundi dernier, un homme a été assassiné par des hommes armés non identifiés en pleine circulation. Ils ont fui avec une importante somme d'argent de la victime. Les conducteurs de tricycles et de mototaxis sont désormais sommés de se conformer au code de la route. Selon le ministère du Transport, ils doivent se munir de gilets, de cartes grises et plaques d'immatriculation. Ces derniers déplorent cette décision qu'ils jugent de trop. Cependant, à Bamako, les avis sont partagés sur la question. Si certains estiment que la décision pourrait augmenter le chômage, d'autres, en revanche, saluent cette initiative du gouvernement. Écoutons ces quelques réactions recueillies par Mahmoud Babakunta.
La décision, elle est plus que salutaire. Il s'agit vraiment de la vie de nous en tant que clients. Il faudra au moins que ça soit même appliqué avec toute sa rigueur.
Ça peut diminuer le chômage en ce qui concerne le travail si c'est bien organisé. Parce que nous trouvons que n'importe qui aujourd'hui se lève pour faire le moto-taxi. Il y en a qui sont en accord avec les bandits, ils prennent les gens, ils vont les déposer chez les bandits. Donc si c'est organisé, bien immatriculé, je trouve que c'est une très bonne chose.
Il assure notre sécurité, donc je pense que c'est bien, c'est une bonne décision.
C'est pour la sécurité de la population. Ce n'est pas méchant, ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas que les gens travaillent, même si ça diminue le chômage. Mais il faut qu'on respecte la loi.
Vraiment, si ça continue et que l'État arrive à ses moyens par rapport à ça et qu'il atteint son objectif, vraiment, moi, ça me fera plaisir.
L'hôpital du Mali est en arrêt de travail depuis lundi suite à l'agression d'un agent de santé survenu le dimanche dernier. Selon certains juges âgés, l'impact de cet arrêt de travail sur les malades est énorme. Conscient de ses conséquences que cela pourrait engendrer, la sécurité est aussi un droit pour les agents de santé, affirment les responsables de l'hôpital. Aïssata Diarra a fait un tour à l'hôpital du Mali. Voici son reportage.
C'était le calme à notre arrivée à l'hôpital du Mali. Selon les usagers que nous avons rencontrés sur place, plusieurs patients sont rentrés chez eux pour manque de prise en charge et certains n'ont pas caché leur mécontentement.
Les agents de santé sont un espoir pour nous. Maintenant, nous avons nos malades en urgence et on a du mal à les voir. L'hôpital n'est pas un lieu de dispute. Nous dénonçons.
Plusieurs malades sont rentrés chez eux sans avoir le soin et ça fait pitié.
Nous avons amené notre mère en urgence hier et nous avons été surpris par cette nouvelle. Après plusieurs tentatives, ils ont finalement accepté de la soigner.
à urgence là.
Les responsables du structure sanitaire sont conscients de l'impact de cet arrêt de travail, mais toutefois, ils estiment que la sécurité des agents de la santé est également un droit. Docteur Bakary Dambélé, surveillant général à l'hôpital du Mali.
Si la grève continue et que les prélèvements qu'on devrait faire sur le site, ces prélèvements ne se font pas. Donc du coup, et s'il y a diminution de production, c'est que l'économie va ensemble. Mais vous allez comprendre que si nous avons le stress, la psychose qu'on peut être agressé sur le lieu de travail, ça nous empêche de travailler correctement parce que l'homme, c'est le mental. Tu ne vas pas travailler avec qui tu es.
En attendant la reprise des activités à l'hôpital du Mali, les patients et leurs accompagnateurs prennent leur mal en patience.
Situation de la COVID-19 à présent, la date du mardi 1er décembre 2020, les autorités sanitaires du pays ont enregistré 52 nouveaux cas positifs, 35 patients guéris et 4 décès. Ainsi, la situation cumulée de 4 762 cas confirmés, dont 3 241 guéris et 160 décès. Place maintenant notre rubrique Acti-Covid présentée par Khalifa Gouit.
Les spécialistes des questions sanitaires s'inquiètent de l'augmentation du taux de contamination au nouveau coronavirus dans le pays. Ils invitent les populations à intensifier l'observation des gestes barrières et au respect strict de la distanciation sociale. Au même moment, un discours publié et retiré lundi soir sur la page Facebook de la présidence annonçait certaines mesures restrictives pour limiter la propagation du virus. Il s'agissait notamment de la fermeture des établissements d'enseignement public ou privé, des bars et l'instauration du couvre-feu. Plus de détails avec Moussa Malessi-Sogo dans ses numéros d'Acti-Covid.
Bamako, la capitale, est considérée comme l'épicentre des malades de Covid-19 selon des médecins. Ces spécialistes de la santé dénoncent aussi le non-respect des mesures barrières dans la ville. Du côté des populations, certains se montrent encore sceptiques face à l'existence de la maladie.
La Covid-19 est bien une réalité, mais elle n'existe pas au Mali.
Ça ne nous arrange pas en ce moment. Ça va jouer encore plus sur l'économie.
Acceptons de nous conformer à certaines règles pour éradiquer la maladie.
Mais avant de prendre n'importe quelle sorte de décision, ils doivent bien réfléchir d'abord.
Professeur Daouda Kassoum Menta, infectiologue et expert Covid-19 à l'hôpital du Mali, invite les populations à prendre au sérieux l'existence de cette pandémie.
Il faut intensifier ces mesures-là. Le nombre de cas augmente. Les structures sanitaires, les gens doivent avoir le réflexe de tester tous les patients qui vont présenter une symptomatologie en rapport avec cette infection.
Rappelons que des mesures restrictives avaient été annoncées dans un discours de Bandao publié et retiré sur la page Facebook de la présidence lundi dernier. À ce stade, aucune explication n'a été fournie sur ce sujet.
Place maintenant à la question d'auditeur du jour. Elle est répondue par professeur Adama Diko, responsable du centre de prise en charge des malades de Covid-19 à l'hôpital dermatologique de Bamako.
Allô docteur, la toux et l'écoulement nasal peuvent-ils être signes de la Covid-19?
L'écoulement nasal, ça peut être effectivement autre pathologie, ça peut être une rhinite allergique, mais dans un contexte épidémique, il faut aller vous faire tester, parce que si ça accompagne de fièvre, avec la fatigue, il faut le tester.
C'est tout pour ce numéro d'Acti-Covid. N'oubliez surtout pas de vous protéger et protéger les autres contre la Covid-19.
Studio Tamani.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse et par l'Union européenne.
Un tour en région avant de nous quitter. Apprendre aux jeunes les techniques de planification familiale et la santé de la reproduction. C'est l'objectif d'une rencontre qui a débuté ce mardi matin au centre Diakosoy de Gao. Les participants au nombre de 39 sont venus des communes urbaines de Gao, de Sony Alibert et de Gunzurei, organisée par l'ONG Grefa en partenariat avec l'aide de l'église norvégienne. La rencontre va durer 3 jours et s'inscrit dans le cadre du programme Dépôt à la FIA. C'est la fin de cette édition présentée par Mirana Kilomaiga que vous pouvez réécouter sur le site web www.studiotamani.org ou en appelant sur Viamo 37 321.